Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, le créationnisme, cette thèse selon laquelle la Terre et par extension l'univers a été créé par un être suprême, refait surface depuis les années 2000 aux États-Unis, en Australie et en Europe, depuis 2006, voire même 2007 avec la parution de l'Atlas de la création. Ce livre à caractère encyclopédique a été rédigé, publié en Turquie et envoyé aux écoles et sous une approche scientifique, elle remet en cause l'évolutionnisme mis au jour par Darwin. Alors, que recouvre le créationnisme? Quels sont ces différents courants? Qui sont les créationnistes? Et pourquoi un tel retour en force? Car même s'il n'est plus question d'opposer science et religion, on peut se demander cependant comment le créationnisme peut refaire surface dans une époque où l'évolution des espèces a été prouvée scientifiquement. Pour en parler avec nous, nous accueillons Jacques Arnoux, dominicain, spécialiste des rapports entre théologie et théorie de l'évolution. Jacques Arnoux, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes ingénieur agronome, docteur en histoire des sciences et en théologie. Vous êtes chargé de mission au CNES, Centre National d'Études Spatiales, chargé de mission sur la dimension éthique, sociale et culturelle des activités spatiales. Alors, nous avons eu le plaisir de vous recevoir ici à Canal Académie une première fois pour la vie de Pierre Teilhard de Chardin, dont vous êtes le biographe. Et pour préparer cette émission, je me suis appuyée sur deux de vos ouvrages. Le premier, Les créationnistes, et puis le second, Dieu, le singe et le Big Bang, tous les deux donc parus aux éditions du Cerf, le premier en 1996, le second en 2000. Et puis j'ajoute que vous avez reçu en 2004 le prix de l'Académie française pour votre livre Les moustaches du diable, paru donc en 2003 aux éditions du Cerf.
Et on pourrait ajouter, si vous le permettez, le tout dernier ouvrage qui porte aussi sur les créationnistes, Dieu versus Darwin, qui est paru en janvier de cette année.
Nous aurons l'occasion de reparler de ces trois ouvrages sur lesquels on peut s'appuyer pour définir, savoir en quoi consiste le créationnisme. Alors, commençons tout simplement par une définition. Elle concerne les trois religions monothéistes, donc judaïsme, christianisme et islam.
Oui, on pourrait définir en fait le créationnisme comme un courant ou des courants, parce qu'ils sont multiples, qui s'oppose d'un côté à un certain nombre d'idées que je vais définir et par ailleurs défend d'autres idées. D'abord, il s'oppose. Il s'oppose à quoi? Au moins historiquement parlant, à l'idée d'évolution des espèces vivantes, comme vous le disiez tout à l'heure, et en particulier à travers l'idée développée par Charles Darwin dans son premier grand livre, L'origine des espèces, paru en 1859. Donc c'est à partir de la publication de cet ouvrage et de tous les travaux scientifiques qui ont été élaborés, mis en œuvre depuis un siècle et demi, que ces courants créationnistes sont nés, donc contre l'idée d'évolution et contre le darwinisme.
Et donc les courants, un courant récent pour le
Alors,
coup.
Alors c'est un courant récent, un siècle et demi, bien sûr c'est récent, sachant que même si ce siècle et demi a eu de nombreuses étapes, peut-être, non pas contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, mais il n'y a pas eu un renouveau récent, il y a toujours eu des courants créationnistes assez motivés, assez actifs. Et c'est vrai qu'il y a eu des grands moments, mais que pour ce qui concerne l'Europe et pour ce qui concerne la France, c'est vrai que ces courants ont beaucoup plus récemment pris de la vigueur et pris une dimension sociale, le fait d'ailleurs qu'on en parle désormais. Donc, des mouvements d'abord qui s'opposent et par ailleurs qui défendent quelque chose. Alors, pourquoi sont-ils? Comme vous le disiez, d'abord, ces courants sont religieux et pour l'essentiel relèvent de ce qu'on appelle, on aime ou on n'aime pas, les religions du livre. Donc, le judaïsme, le christianisme par rapport à la Bible et l'islam par rapport au Coran. Donc, ils défendent l'écriture sainte, que s'agisse donc de la Bible ou du Coran.
Avec une lecture littérale,
alors,
pour le coup.
Ensuite, c'est ça. Et pour, non seulement ils la défendent, mais en plus, ils mettent en œuvre une lecture effectivement littérale au pied de la lettre. Donc, ce que je lis quand j'ouvre la Bible ou j'ouvre le Coran, si ça me raconte un récit, c'est comme ça que ça s'est passé. Et strictement, historiquement, journalistiquement, j'allais dire, scientifiquement. Donc une lecture littérale de l'Écriture sainte, parce que faire une autre lecture serait mettre en cause, à leurs yeux, la vérité qui est véhiculée par ce livre. Donc il n'est pas question d'introduire de l'exégèse, c'est-à-dire une étude littéraire, stylistique ou quoi que ce soit. Non. Ce que je lis, c'est comme ça que ça s'est passé. Certains courants sont moins littéralistes que d'autres.
Et on aura l'occasion d'en parler un peu plus
mais
loin.
Et donc, ils ont une lecture à ce moment qu'on dirait concordiste. C'est-à-dire qu'ils vont lire le texte, tout ce qui, par ailleurs, tout ce que la science peut me raconter, tout ce que l'histoire peut me raconter, tout ce qui est en accord avec le texte, on l'accepte. Tout ce qui est en désaccord est refusé. Mais donc, vous voyez, c'est vraiment l'écriture sainte qui est au cœur. Donc ça, c'est vraiment des courants qui font là, plus que la promotion, la défense de l'écriture sainte. Ils sont aussi des promoteurs d'autres choses, parce qu'il ne faut pas se limiter à l'écriture sainte. Et c'est également des promoteurs des fondements religieux de leur propre foi ou de leur propre croyance. Donc, une fois encore, les fondements de la foi juive, de la foi chrétienne ou de la foi musulmane en fonction du cas. Et là, on a un autre mot qui est le mot de fondamentalisme qui apparaît. Il est intéressant quand même de savoir qu'historiquement, ce qu'on appelle, et ce qu'on le connaît bien aujourd'hui sous le terme de fondamentalisme, naît aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Donc, vous voyez, pratiquement à la même période. À ce moment-là, naissent des courants de prédication, des prêcheurs, dont la littérature américaine est très riche d'ailleurs, ces prédicateurs un peu passionnés.
Également en réaction face à l'évolutionnisme ?
Non, pas directement au départ. C'est surtout par rapport à ce moment-là, à l'évolution de la société. Ils se rendent compte que par rapport aux fondateurs des États-Unis, ou en tout cas aux premiers colons, on a perdu la foi des Pilgrim Fathers, des pères fondateurs. Donc il faut un retour aux valeurs religieuses, donc vous voyez, aux valeurs, aux fondements. Et donc il y a ce qu'on va appeler les fondamentalistes. Ils publient d'ailleurs des journaux qui s'appellent Fondamentaux, d'où vient d'ailleurs ce qualificatif de fondamentaliste. Donc ça, c'est la deuxième caractéristique. Donc on défend à la fois les valeurs, mais aussi les éléments fondamentaux de la foi. Et puis la troisième caractéristique, c'est que non seulement on défend la Bible, non seulement on défend les valeurs et les fondements de la foi pour soi-même, mais on veut aussi que ces valeurs soient appliquées à l'ensemble de la société. Et là apparaît un troisième terme que nous connaissons aussi bien aujourd'hui, qui est le terme d'intégrisme. C'est-à-dire que je veux, si j'appartiens à ces courants-là, je veux que les valeurs qui sont miennes, que je peux appliquer dans ma petite communauté religieuse, ou familiale, je veux que l'ensemble de la société à laquelle j'appartiens applique les mêmes valeurs. Et ça, c'est le mouvement ou c'est le désir intégriste que nous connaissons bien aujourd'hui. Mais tout ça, vous voyez, va trouver dans les créationnistes des supports, aussi des véhicules, si je puis dire, un terreau. Et donc, les mouvements créationnistes allient ces trois, enfin, donc, à la fois donc, s'opposent à l'idée d'évolution et font la promotion d'une lecture littérale ou concordiste de la Bible, d'une défense des fondamentaux de la foi et d'un projet intégriste, d'un projet donc sociopolitique d'appliquer tout cela à l'ensemble de la société.
Alors, quelle a été la position de l'Église vis-à-vis de ce courant créationniste ?
Alors,
il a été ambivalent.
Oui, bien sûr, parce que, enfin bien sûr, je vais vous l'expliquer, vous le savez déjà comme moi, c'est que les Églises chrétiennes, donc l'Église catholique, les Églises protestantes, lorsque, au milieu du 19e siècle, elles ont été confrontées à la diffusion extrêmement rapide des idées de Darwin et de ses héritiers, de ses collaborateurs, de ses confrères, en Europe et aux États-Unis, des idées donc sur l'évolution, sur les théories de l'évolution, etc. Leur première réaction a le plus souvent été, sinon a toujours été, une réaction d'opposition. Donc, je vous disais, 1859, l'origine des espèces, publiée par Charles Darwin. Dès 1860, un synode des évêques en Allemagne condamne les idées de Darwin et interdit aux catholiques allemands de lire ses écrits et en tout cas de pencher de ce côté-là des idées scientifiques. Donc, il y a eu une opposition assez claire au moins au début. Tous ceux qui, dans les années qui vont suivre, les décennies qui vont suivre, tous ceux qui, au sein des églises chrétiennes, en particulier au sein de l'Église catholique, vont s'intéresser de trop près à ces théories-là, vont avoir quelques ennuis. Vous disiez tout à l'heure que, à défaut d'être le biographe,
je suis
un portraitiste de Teilhard de Chardin, j'en ai fait son portrait. Et c'est évidemment une des figures les plus connues au XXe siècle d'hommes qui a eu bien des problèmes avec Rome à cause de ses idées trop ouvertes aux idées d'évolution.
En plus, il n'était pas paléontologue,
c'est parce que comme scientifique, il avait des choses à dire.
Oui.
Mais avant lui, il y en a eu d'autres. Bon, là, on a un jésuite, il y a eu d'autres jésuites, il y a eu des dominicains français, pour rester même dans la sphère française, qui ont eu quelques problèmes avec Rome par rapport à leurs idées trop ouvertes. Donc, au moins jusque dans les années 1950-1960, prenez la date du Concile Vatican II, donc au début des années 1960, qui a qui correspondait à une ouverture de l'Église catholique aux idées contemporaines, enfin de l'époque, jusque-là, quand même, il y a eu énormément de réticence par rapport aux idées évolutionnistes. Pour autant, on ne peut pas dire que les Églises protestantes et catholiques ont été créationnistes, parce que ce que je vous disais par rapport à la lecture littérale ou la lecture concordiste de la Bible, ou même par rapport à une vision intégriste, une perspective intégriste, n'a pas été défendue avec une telle ardeur par les églises protestantes qui ont une vieille culture exégétique, par exemple dans leur rapport à la Bible, ou dans l'église catholique, avec un peu plus de retard, la même position à l'égard de la Bible était en chemin. Le père Lagrange crée l'école biblique à Jérusalem à la fin du 19e siècle, au début avec quelques difficultés, mais à partir des années 20 ou 30, ces idées d'une lecture plus ouverte, exégétique, stylistique, scientifique de la Bible, entrées dans les mœurs, si je puis dire, catholiques, c'est chose faite dans les années 50. Donc, dès les années 50, je dirais vraiment, il y a une prise de distance très claire avec les créationnistes. Pour autant...
De discours officiel,
non,
on va dire.
Oui, parce que justement, c'est ça, pas de discours officiel. Il y a eu des prises de position à l'occasion... dans un diocèse ou dans une conférence épiscopale. Mais on voit bien que le sujet reste largement ouvert, on pourra en parler tout à l'heure, et qu'au sein même de l'Église catholique, la question est loin d'être réglée. Mais c'est tout à fait normal, parce que de toute façon, la question est loin d'être réglée. Et le créationnisme, aujourd'hui, n'a plus du tout, enfin en tout cas, a des visages un peu différents du créationnisme du 19e. Autant aujourd'hui, l'Église catholique et les églises protestantes, les plus importantes, j'allais dire, se sont totalement démarquées de ce que défendait le créationnisme au 19e, autant les formes contemporaines de créationnisme, on en parlera à travers le dessin intelligent par exemple, ou le néo-créationnisme, autant ces formes-là, on a plus de mal à s'en démarquer parce que de fait, le débat est très largement ouvert.
Alors il faut attendre 1996 avec une déclaration pour le coup officielle de Jean-Paul II pour dire que les théories de Darwin sont plus qu'une hypothèse.
Voilà, c'est un moment important dans l'histoire des rapports entre science et Église catholique, puisque vous citez Jean-Paul II, donc un discours qu'il prononce devant l'Académie pontificale des sciences, qui est une institution assez intéressante puisqu'elle rassemble des scientifiques du monde entier, toutes disciplines confondues, mais aussi toutes idéologies, convictions religieuses confondues. On a pratiquement, je dirais, tous les courants qui sont représentés. Et devant cette académie qui fête son 60e anniversaire, Jean-Paul II choisit de parler des théories de l'évolution et a un discours, je crois, très clair, en trois points. Le premier point, c'est de dire nous devons reconnaître les faits de l'évolution. Donc, le monde n'a pas toujours été tel qu'il est. La Terre a quelques milliards d'années, la vie y est apparue il y a un peu moins de 4 milliards d'années, etc. etc. Donc, il y a des faits. L'homme lui-même est un produit de cette évolution. Il y a, deuxième point, des théories de l'évolution. Ces théories, comme vous le disiez, ne sont pas seulement des hypothèses avec des points d'interrogation énormes accrochés à ces hypothèses. Ce sont des constructions de l'esprit et de la raison humaine qui doivent être respectées comme telles. Et en même temps, ajoute-t-il, avec raison, également critiquées comme telles. Puisque c'est un travail de la raison humaine. Et sans du tout dénigrer le travail de la raison, au contraire, Jean-Paul n'a cessé de mettre en avant le travail de la raison, pour autant, ce travail-là est porteur de tout ce qui constitue l'humanité, y compris des idéologies. Donc il ne s'agit pas de dire, parce que ce sont des hommes qui les ont faites, ces théories sont mineures et peuvent être portées d'idéologie. Non, elles sont tout à fait respectables et doivent être respectées, mais pour autant, sachons qu'elles peuvent porter des idéologies. Et les exemples sont nombreux. Le troisième point, c'est de dire... Tout cela étant posé, tout cela étant reconnu, quand on réfléchit à la nature humaine, à la singularité humaine, là, il ne faut pas se contenter du discours scientifique, parce que l'homme aussi possède des qualités qui ne peuvent pas être réduites ou strictement décrites, par la seule science. Il faut aussi que d'autres discours s'y intègrent, et évidemment le discours religieux.
Et en ce sens, l'actuel pape Benoît XVI, qui vient de publier son livre, alors qu'il n'est pas encore paru en français, mais qui devrait arriver d'ici peu, et justement écrit que tout ne s'explique pas par la théorie de Darwin.
Voilà, alors depuis Jean-Paul II, donc vous le disiez effectivement, c'est 96, donc il y a plus de 10 ans maintenant, il n'y a pas eu de prise de position aussi claire de la part d'un pape avec... le caractère un peu officiel, vous voyez, un discours devant l'Académie pontificale, donc devant la communauté scientifique d'une certaine manière. Il y a eu comme des prises de position ecclésiastiques importantes, on en reviendra aussi, mais alors Benoît XVI a indirectement abordé la question à l'occasion d'un séminaire qu'il réunit tous les ans autour de lui avec d'anciens élèves à lui quand il était professeur de théologie. Et là, le séminaire d'automne dernier, en tout cas, portait précisément sur la question création-évolution. Et dans les actes, si je puis dire, de ce séminaire qui vient d'être publié en allemand, effectivement, il rappelle, c'est pas un discours élaboré, parce que ce sont un exemple de communication, mais dans les débats, Benoît XVI est intervenu, que tout ne peut pas s'expliquer par, disons, alors c'est là les théories darwiniennes, ce que les scientifiques eux-mêmes reconnaissent. Et je crois que c'est important, à travers ce propos, c'est de ne pas y voir, à mon sens, une critique du travail des scientifiques.
Mm-hmm. Ce qui était pris tel quel par confrères journalistes.
Oui, alors ce qui peut être... il ne faut jamais oublier que Benoît XVI, d'abord, est un universitaire. Donc, chaque mot est pesé. Et ce n'est pas pour autant toujours un excellent communicant. Mais il s'adresse plus souvent à des universitaires qu'à des journalistes. C'est son statut, j'allais dire, ou son origine, en tout cas, qui pose cela. Mais bon, cela dit, il reste encore beaucoup à débattre là-dessus. Et tout de même de reconnaître, en tout cas, parce que moi, j'aime bien voir plutôt le côté positif que le côté négatif des choses, c'est quand même de reconnaître que la science, qu'il s'agit de la biologie, mais aussi de la cosmologie, de tant d'autres sciences actuelles, la science ne cesse de poser des questions auxquelles elle-même ne peut pas strictement répondre. Et ça, bon, je sais qu'en disant cela, j'hérisse le poil de certains scientifiques, mais je crois quand même que la plupart des scientifiques le reconnaissent dans ce que je peux entendre de leur part, quand je les rencontre, quand nous débattons ensemble, de reconnaître que la science ne peut pas tout expliquer. Et c'est au moins ça, je pense, au bas mot, ce que dit Benoît XVI, même si après, bon, peut-être qu'il a des idées plus élaborées, mais pour l'instant, je veux dire, ça reste de l'ordre d'un débat qui a été publié. Donc ne pas lui donner plus d'importance que, par exemple, le discours de Jean-Paul Leu que vous citiez, qui est, à mon avis, plus élaboré.
Alors, je vous propose de marquer une première pause, Jacques Arnouille. On se retrouve tout de suite après pour parler des différents courants créationnistes. À tout de suite.
L'espace est lancé sur le site de Canal Académie, l'espace Apprendre, un espace d'écoute active pour vous, professeurs et enseignants, élèves et étudiants, avec des suggestions d'activités pédagogiques à partir d'extraits d'émissions. Un espace d'auto-formation à distance, ouvert à tous, téléchargeable facilement et gratuitement avec l'espace Apprendre de Canal Académie, établi en partenariat avec le Cavilab. Vous allez découvrir le plaisir d'apprendre.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Jacques Arnoux, avec qui nous parlons du créationnisme. Nous avons connaissance de ce courant qui existe déjà quand même depuis pas mal de temps, qui n'est pas si récent que ça. Alors, dans cette seconde partie, Jacques Arnoux, nous allons pouvoir parler des différents courants. Vous parliez dans la première partie de l'intelligent design ou dessin intelligent. Il me semble que c'est plutôt la forme douce, on va dire, du créationnisme.
Je dirais pas ça comme ça. Si vous voulez, pour parler des différents courants du créationnisme, de manière extrêmement schématique, parce que quand on parle de biodiversité, vous avez un thème très, très à la mode, mais à juste titre, on pourrait parler aussi de diversité de la part des créationnismes. Je pense que une bonne manière de les comprendre est de voir comment ils sont apparus historiquement parlant. Dans une première période, donc nous le disions tout à l'heure, en gros ils apparaissent à partir des années 1860, dans une première période qui dure en fait un siècle, on va dire 1860-1957, je vous dirai pourquoi c'est aussi précis que cela. Dans une première période, les courants créationnistes sont essentiellement des courants d'opposition, comme je vous le disais tout à l'heure, d'opposition à la science, opposition stricte, et il s'agit seulement de défendre la Bible. Donc c'est la Bible ou rien, d'une certaine manière. Ça, je dirais, c'est la forme à l'ancienne, le créationnisme à l'ancienne. Et là, il n'est pas question d'admettre quoi que ce soit en termes d'évolution, d'admettre quoi que ce soit en termes de théorie de l'évolution. Il faut qu'on empêche l'enseignement de ce genre de théorie de l'évolution dans les écoles. C'est essentiellement aux États-Unis qu'à ce moment-là, les courants sont présents. Et au nom de la défense stricte de la Bible.
Mais alors, comment on explique l'arrivée des dinosaures ou
Non, mais on n'y a pas... Ou on les ignore, ou alors on dit simplement, Dieu a créé les dinosaures. Bon. Et il a créé les dinosaures, point. comme il a créé.
En six jours,
les mouches, les mouches, les papillons et
d'accord.
le reste. Donc, ce sont des amis comme des autres. Et puis, éventuellement, puisque même on ne rencontre plus de dinosaures aujourd'hui sur Terre, à Paris ou ailleurs, eh bien, il y a quand même un événement très intéressant qui s'est passé, qui est raconté par l'ami, qui est le déluge. Le déluge a entraîné la disparition de toutes ces espèces, point. Donc, on refuse d'entendre quoi que ce soit d'autre que cela. Ça, c'est la première période. Alors, bien sûr, on va leur faire remarquer, oui, mais enfin, quand même, comme vous lisez la Bible, vous voyez bien, on vous parle de six jours, comment on les entend ? Bon, alors, certains disent, c'est six jours de 24 heures, pas une minute de plus. Ça, c'est les plus stricts. D'autres vous disent, oui, mais attendez, on peut quand même... Vous savez, si vous lisez ailleurs dans la Bible, on nous dit qu'aux yeux de Dieu, un jour sont comme 1000 ans. Donc, c'est pas six jours de 24 heures, c'est 6 fois 1000 ans. Bon, déjà, on laisse un peu plus de temps. Mais vous savez bien que pour les sciences, tout ça reste quand même très loin de la réalité. Vous voyez, c'est cette première période. Ce genre de créationnisme-là, extrêmement strict et littéraliste, aujourd'hui, a quasiment disparu. C'est vraiment des... S'il existe encore, c'est des tout petits groupuscules.
C'est ce qu'on appelle le créationnisme Terre jeune.
Alors, ce serait un créationnisme Terre jeune, au sens où la Terre n'aurait que quelques milliers d'années. En calculant les généalogies des patriarches, on voit à peu près quand apparaît Adam, on connaît sa longévité, donc tout ça, ils font des calculs très très précis et on amène à moins 4000 ans avant Jésus-Christ. Voilà, la Terre aurait tout au plus 6000 ans. Alors d'autres en rajoutent encore quelques milliers d'années, je vous dis, si vous admettez que ce n'était pas 6 jours, mais 6000 ans.
D'accord.
Et même à ce moment-là, vous pouvez trouver des formes encore plus dénaturées, mais alors là vraiment, on n'est plus très sérieux aux yeux des purs et durs, en disant, au fond, laissons ces jours, laissons la durée que vous voulez, et par contre, ces jours correspondraient à des aires géologiques. Alors, vous avez un jour, une première ère, deuxième jour, deuxième ère, etc. Mais vous voyez, c'est toujours, la Bible est la seule référence, et plus que la référence, est le seul discours acceptable en termes de science. Tout ça,
n'existe
plus. Mais ça n'existe quasiment plus.
Alors pourquoi 1957 ? Quelle est cette
1957
date ?
Parce qu'en 1957, c'est passé énormément de choses, vous le savez. Vous avez peut-être parlé ici de l'Europe. Il s'est passé aussi, et on va le célébrer dans quelques mois, le 4 octobre 1957, a été lancé Spoutnik, le premier satellite artificiel de la Terre.
Là, on revient sur votre domaine. Sur
un autre domaine d'intérêt.
Et qu'est-ce
qui s'est passé ? Il s'est passé chez nos amis américains une grande frayeur, parce qu'ils se sont rendus compte que, contrairement à ce qu'ils espéraient, les Soviétiques étaient en train de les rattraper dans la course technologique, entre autres la course à l'espace. Et que si les Soviétiques étaient capables de faire survoler le territoire américain par un petit satellite, ils pouvaient aussi mettre une charge nucléaire dans ce satellite. Et donc que le territoire américain était menacé très concrètement par la technologie et les armées soviétiques. Donc il y a eu un sursaut chez les Américains, un sursaut en général patriotique, mais aussi plus directement scientifique et technologique, qui non seulement a entraîné des programmes de recherche, mais aussi en domaine de l'enseignement, à être plus sérieux sur l'enseignement. Alors que, grâce à certains procès dont je n'ai pas parlé, parce qu'on parlait pendant des heures, l'enseignement des sciences et de la biologie en particulier avait été très limité dans certains États, et donc avait mis de côté Darwin et les autres, tout ça a été balayé par crainte des Soviétiques. Et donc les créationnistes, qui avaient été plutôt les vainqueurs de cette première étape, de ce premier siècle, si je puis dire, se sont trouvés menacés. Ils se sont rendus compte que leurs idées ne passaient plus comme auparavant. Donc ils ont relancé des campagnes, et là ils se sont rendus compte que, ne pouvant plus défendre la Bible ou rien, voyez, écarter les sciences, il fallait dire, bon, on ne peut pas écarter l'enseignement des sciences, de l'évolution, mais nous allons vous proposer une science de la création.
Donc, commencer à intégrer certaines vérités scientifiques.
Plutôt, proposer d'autres vérités qui soient compatibles avec la Bible et qui se prétendent, elles aussi, scientifiques. En disant, il va falloir imposer un enseignement à temps égal entre les sciences de l'évolution. Bon, vous voulez vraiment les enseigner, on ne peut pas vous en empêcher, d'accord. Mais nous, on veut que soient enseignées aussi les sciences de la création. Donc, un discours scientifique strictement basé sur la Bible. Donc, on va vous expliquer comment le Grand Canyon a été creusé grâce au déluge, comment Noé a pu rassembler deux représentants de chaque espèce dans une arche, comment le monde a effectivement été créé en 6 jours, et d'ailleurs on en a des preuves, et qu'il n'a pas des milliards d'années, mais que quelques milliers d'années. On a des preuves sur des questions de datation, etc. etc. Donc il y a toute une période autour des années 60-70, je dirais un peu le créationnisme à la moderne, ou créationnisme moderne, qui prétend fonder, élaborer et enseigner une science de la création. Donc là, vous voyez, toujours une opposition à l'évolution, mais un désir de promouvoir un discours scientifique que l'on met en avant de la Bible. Ça, c'est la deuxième période.
Et ces discours-là
existent toujours. Vous trouvez des musées de la création, vous trouvez des instituts de recherche créationnistes, vous trouvez des revues, des chaînes de télévision, des radios qui continuent à défendre ce genre d'idées. Donc, nous avons une science de la création à vous proposer. Oubliez la science de l'évolution.
Et qui a un écho important,
qui a eu un écho très important dans les années 60 à 80. Il y a eu des procès aussi, de nouveau, comme d'ailleurs dans la première période, pour imposer ce type d'enseignement à temps égal, vous voyez, temps partagé entre sciences de l'évolution, sciences de la création. Ces procès ont été plutôt perdus, même si dans certains États, on a pu, à certaines époques, obliger les écoles à enseigner cette science de la création. En Australie, vous citiez tout à l'heure l'Australie, oui. En Australie où ces courants sont apparus dans les années 70, c'est ça aussi qui est en cause, c'est-à-dire la promotion, la diffusion d'une science de la création, alors qu'elle n'a en fait aucun élément scientifique. Parce que lorsqu'il y a eu des procès et qu'on a invité des historiens ou des philosophes des sciences à porter leur expertise en disant « mais est-ce que c'est une science ?» Alors, ils ont tous été catégoriques, ce n'est pas une science, c'est une pseudo-science. Ça peut être enseigné en cours de religion, mais pas en cours de science. Donc ça, c'est à la fois la deuxième période et un deuxième mode, grand mode d'être créationniste, j'allais dire, qui existe encore assez largement répandu, plus que le créationnisme à l'ancienne. Mais est apparu dans les années 80-90 plutôt, un troisième courant et une troisième période. On l'appelle parfois néo-créationnisme. C'est vrai, et en même temps, c'est pas vrai. C'est vrai parce que on retrouve un certain nombre de points communs. On retrouve un point commun qui est de ne pas aimer Darwin.
Oui.
Ça, c'est clair. Il y a quand même une grande différence, c'est que autant les créationnistes à l'ancienne ou les créationnistes modernes, pour utiliser ces étiquettes-là, refusaient totalement l'idée d'évolution, autant les partisans du dessin intelligent acceptent l'idée d'évolution, acceptent les milliards d'années de la planète Terre et de la vie sur Terre, acceptent les 12 ou 15 milliards d'années de l'univers et l'évolution de l'univers. Tout ça, ils l'acceptent parfaitement. Mais ceux qui n'acceptent pas, donc je vous le disais, c'est Darwin, c'est l'idée que l'on puisse expliquer l'évolution de l'univers, l'évolution de la Terre, l'évolution de la vie sur Terre, l'évolution de l'espèce humaine, par les moyens et les outils offerts par les théories darwiniennes. Et ils disent, on ne peut pas donner toutes les explications. Il y a ce qu'ils appellent parfois une irréductible complexité. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là ? Le vivant est tellement compliqué. Regardez la structure de la moindre cellule. Regardez, ils aiment beaucoup parler du flagelle de certains bacilles, de certaines bactéries. Hein, ce par quoi les petites queues vibrantes, j'allais dire, grâce à laquelle les bactéries peuvent se déplacer. Dire, si on regarde simplement comment est construit ce flagelle, c'est d'une telle complexité qu'on ne peut pas admettre que c'est le fruit simplement de la manière dont il résume la théorie de l'évolution, qui est le fruit du hasard. Bon. C'est un résumé qui est un peu tordu, si je puis dire, mais c'est comme ça qu'ils le disent. Donc, il faut, disent-ils, pour expliquer l'évolution, pour comprendre l'évolution et l'apparition des espèces et la complexité du vivant, il faut introduire un facteur supplémentaire. Un facteur qui, jusqu'à présent, a été ignoré par la science moderne, qui est ce facteur qu'il désigne par ce nom que vous citiez tout à l'heure, du dessein
supérieur,
d'une intelligence supérieure. Alors, vous me dites, c'est Dieu. Pour un certain nombre d'entre eux, c'est évidemment la main divine. D'autres parlaient du grand architecte. Souvenez-vous de Voltaire. On pourrait parler d'un grand designer, pour utiliser un terme même à l'Académie française. Mais ils laissent libre sur le nom. Mais en tout cas, disent, on ne peut pas se contenter des théories scientifiques. Il faut rajouter un intervenant supplémentaire.
Donc ça, c'est dans les années 90.
Voilà, et ça, c'est le courant le plus virulent, le plus vivant aujourd'hui, qui, vous voyez, je n'ai pas parlé de Bible à leur propos. C'est-à-dire qu'ils ne défendent pas la Bible. La Bible a disparu de leur discours. Même si un grand nombre d'entre eux, étant simplement déjà américains, l'Amérique est très marquée par la Bible, donc ils ont sans doute la Bible pour référence, mais ils ne la défendent pas a priori.
Donc on n'a plus de défense de la lecture littérale.
Voilà,
comme
alors ça, c'est complètement disparu. C'est pour ça que le terme de néocréationnisme, parce que, vous voyez, c'est très bien, vous avez le créationnisme à l'ancienne, le créationnisme moderne, le néocréationnisme, demain le post-moderno-créationnisme ou le bio-créationnisme, parce qu'il faut être aussi un peu écolo. Donc, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a quand même des caractéristiques assez différentes de celles d'un créationnisme classique. Et en même temps, on y a des éléments supplémentaires qui sont extrêmement intéressants, je crois.
Alors, on parle des États-Unis, on parle de l'Australie. Comment ce courant arrive en Europe? Et pourquoi est-ce qu'il y a un point commun entre le fait que les États-Unis et l'Australie soient des pays anglophones, d'ailleurs?
Voilà. Alors, il est clair que si l'Australie a été, en gros, je dirais, le second continent, puisque c'est un continent, à être touché ou dans lequel les mouvements créationnistes se sont répandus, c'est évidemment via la langue anglaise, via aussi la part des églises protestantes de type évangélique dans lesquelles ces courants se sont largement diffusés. Alors, pourquoi en Europe et comment en Europe? En Europe aussi, on connaît ces courants créationnistes depuis plus longtemps que les années 2000. C'est plutôt lié au mouvement du dessin intelligent qu'il y a eu cette expansion. Déjà auparavant, à travers toutes les églises protestantes, à travers un certain nombre de cercles bibliques, de lectures bibliques, de diffusion de la Bible et d'un certain nombre d'auteurs autour de la Bible, on trouvait assez facilement ce genre d'écrit. Moi, c'est comme ça, en fait, que je les ai connus, à travers mes amis scientifiques, à travers aussi un certain nombre de publications que l'on peut trouver dans leurs librairies, dans leurs bibliothèques bibliques, qui sont déjà anciennes. Plus récemment, je crois que le mouvement du dessin intelligent, lui, a connu une extension bien plus importante justement que celle qui est passée par le canal de ces cercles bibliques ou des églises protestantes. Pourquoi? Parce que précisément c'est moins marqué religieusement a priori. C'est moins marqué défense de la Bible. Et donc c'est plus, je dis pas que c'est plus tentant, mais surtout dans un pays comme le nôtre où la référence religieuse, la référence biblique peut être assez mal vue. Par contre, l'idée de oui, dans un grand dessin intelligent est beaucoup plus attirante. En France, il y avait depuis plus longtemps un mouvement créationniste à la française, comme je dis parfois.
À la française.
Oui, qui n'a pas grand-chose à voir, a priori, en tout cas en lien historique avec les églises protestantes. C'est un courant qui avait un fondateur, en tout cas une figure fondatrice qui est un autodidacte, Ferdinand Grombette, qui avait travaillé sur la géologie biblique. Enfin, donc c'est vraiment à la française. Ce courant aujourd'hui reste assez minoritaire. Je crois par contre que le mouvement du dessin intelligent, sans être aussi organisé que dans d'autres pays, a une certaine diffusion, est assez bien reçu. Et j'en parlais récemment avec d'autres scientifiques. L'une des explications qu'on peut donner à cet intérêt est sans doute aussi liée à une tradition française. Alors, elle est débattue parce que, évidemment, en France aussi, on a une grande diversité de courants. Mais les milieux scientifiques et aussi de pensée, milieux intellectuels français ont souvent été influencés, tentés par un certain vitalisme. Est-ce qu'au sein du vivant, il n'y a pas une espèce de souffle, une espèce, vous voyez, l'idée de vitalisme, quelque chose qui s'exprime. Ce quelque chose que vous parliez du vitalisme, vous parliez de dessin intelligent, c'est assez proche. Donc on doit trouver historiquement, enfin, de par l'histoire, de par la sociologie aussi des idées, des accointances, des accords qui expliqueraient qu'aujourd'hui, ce mouvement-là, du dessin intelligent, trouve des échos dans la société française.
Alors je vous propose de marquer une seconde courte pause, car nous on se retrouve tout de suite après pour parler du créationnisme dans l'actualité, dans l'air du temps en Europe, et puis pour peut-être parler également du créationnisme dans le judaïsme et dans l'islam. A tout de suite.
Thank you. Vous écoutez Canal Académie.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Jacques Arnoux. Dans cette troisième partie, Jacques Arnoux, sur le créationnisme et les créationnistes, nous allons pouvoir parler, bien sûr, du créationnisme dans l'ère du temps, dans l'actualité. Puis également, nous parlerons du créationnisme dans l'islam et dans le judaïsme. Tout d'abord, dans l'actualité, en janvier 2007, vous m'aviez repris sur la date, effectivement, en janvier 2007, paraît une encyclopédie qui est diffusée dans les grandes, dans les écoles, un peu partout, qui s'appelle l'Atlas de la création, qui est publiée, rédigée en Turquie. Que revêt cette encyclopédie? Qu'est-ce qu'elle dit en fait?
Alors effectivement, l'événement était assez surprenant puisque fin janvier, je n'ai pas les dernières estimations, moi j'ai entendu des choses comme 30 000 ou 40 000 exemplaires du premier tome, il devrait en compter 7, d'un atlas de la création, et ce premier tome pèse quand même 7 kilos, fait 700 ou 800 pages. 770 pages, je crois. Donc, tous ces exemplaires sont envoyés nominativement à des directeurs d'école, des centres de documentation scolaire, des centres de documentation universitaire, des directeurs de laboratoire. Donc, c'est une opération de grande envergure, je dirais presque une opération militaire, parce qu'il faut, derrière quand même la logistique, de la stratégie.
Et financée comment ?
Financée par des courants fondamentalistes, puisque le propos de ce livre, c'est de nier l'évolution. Donc,
tout en parlant de sujets scientifiques.
Alors, avec des arguments dits scientifiques. Alors, il y a évidemment des éléments scientifiques qui sont justes parce qu'ils savent, les auteurs ou l'auteur sait où se trouvent les bonnes sources, mais pour ensuite les démonter ou n'utiliser que les éléments qui l'intéressent. Donc, pour nier l'évolution, dire qu'en fait, les espèces n'évoluent pas. Et surtout que les théories de l'évolution issues de Darwin sont totalement fausses. Non seulement elles sont fausses, mais en plus, elles ont été la cause, enfin Darwin est à l'origine de tous les maux qui touchent notre société. Pour l'auteur, Harun Yahya, eh bien le Darwin est à mettre dans le même pot, si je puis dire, que Staline, Hitler, Pol Pot, tous ces tyrans qui ont conduit l'époque moderne dans les pires atrocités. Et il conclut d'ailleurs, de manière assez étonnante, que le 11 septembre 2001 est typiquement un fruit du darwinisme. Donc on voit bien
quel sens ?
Parce que c'est notre société qui, en ayant suivi les idées de Darwin plutôt que les idées défendues par le Coran, eh bien notre société se trouve dans ces mots à la fois l'actrice, je ne sais pas si vous dites ça comme ça, la société qui est actrice, mais aussi la victime aussi de ces déviations. Donc là, il y a vraiment un coup, une croisade, j'allais dire, de la part de ces fondamentalistes donc turcs. Et vous savez que c'est une question qui est encore d'actualité en Turquie, puisque d'un point de vue politique. Donc c'est pas la première fois, parce que c'est une traduction en français, cet ouvrage existait déjà en turc, et dans d'autres pays, il a été envoyé aussi en Belgique, je crois pas. Donc c'est vraiment des opérations de grande envergure qui veulent marquer le coup. Pour autant, j'ai du mal à évaluer le pourquoi d'une telle stratégie, surtout en France où on a quand même une tradition rationaliste, voire anticléricale, assez importante. Donc, quel peut être l'impact? Bon, peut-être que c'était aussi une manière d'évaluer l'impact, de savoir comment une société française réagissait. De ce point de vue-là, la réaction était intéressante parce que les premiers concernés, c'est donc les milieux de l'éducation. Et le ministre de l'Éducation a plutôt demandé à tempérer le phénomène, a demandé un rapport à un biologiste quant au contenu scientifique, pour justement montrer ce qui était exact, ce qui était erroné, et puis a demandé aux différents responsables d'empêcher toute diffusion de ce livre-là. On a déjà suffisamment de questions à traiter de ce type-là dans l'éducation, parce qu'il ne faut pas nier qu'aujourd'hui, pour les enseignants, c'est une question qui est déjà posée. Ils ont en face d'eux des élèves ou des étudiants qui peuvent s'étonner d'un certain nombre de discours, de ce qu'ils entendent en termes de science, dans leur cours de science, voire même s'opposer à leurs professeurs au nom de leurs propres convictions religieuses. Alors, ça va être des gens d'horizons très différents en termes religieux. Ça peut être l'islam. Bon, et là, la classe de la création, évidemment, trouve un écho ou inversement, mais ça peut être aussi le christianisme.
Alors, finalement, cette encyclopédie, cet atlas de la création, c'est une tempête dans un verre d'eau ou quand même ça pose des questions sur l'enseignement, sur... Là, par exemple, j'avais sur un site internet, j'ai trouvé des chiffres, alors ils valent ce qu'ils valent, c'est en Turquie, hein, sur les thèses créationnistes qui apparaissent dans les manuels scolaires et qui fait que 75% des lycéens turcs ne croient pas à la théorie de l'évolution. Alors, est-ce que c'est quand même atypique ou est-ce qu'au contraire, en France, on pourrait être amené à se poser la question de savoir quel enseignement apporter ?
Alors, les chiffres en France seraient, si on faisait le sondage, évidemment bien moindres. Bien moindres. La Turquie, vous le savez bien, religieusement et politiquement, est quand même dans une situation de forte poussée islamique, avec des propos fondamentalistes aussi. Donc, la situation n'est pas loin d'être assez semblable aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il faut... En même temps, il ne faut pas voir, ce n'est pas parce que vous êtes opposé aux théories de l'évolution que vous êtes pour autant créationniste ou fondamentaliste. Les chiffres aux États-Unis seraient assez proches. Pour autant, on n'a pas que des créationnistes. Mais si vous voulez, c'est là. Alors, vous avez raison de dire, ce n'est pas une tempête dans un verre d'eau. Parce que d'abord, envoyer 30 000 exemplaires, ça demande trop d'efforts pour dire c'est simplement une tempête. C'est quand même plus que ça. Même si les effets sont assez limités, ça, je crois que c'est très bien. Là, de ce point de vue-là, les autorités françaises ont bien réagi. En même temps, les questions restent effectivement posées sur... Ou plutôt, les questions restent posées au monde de l'enseignement. C'est-à-dire, quelle science enseigne-t-on ? Comment enseigne-t-on les sciences ? Quels outils donne-t-on aux élèves, aux étudiants, pour avoir un outil critique par rapport à ce qu'on enseigne ? Est-ce que lorsqu'on enseigne les théories de l'évolution, il faut se contenter d'enseigner des formules mathématiques ? Ou est-ce qu'il ne faut pas aller un peu plus loin et faire, comme un certain nombre de professeurs le font désormais, mais je pense que c'est justement lié à ce genre de situation, font aussi un peu d'histoire des sciences, un peu de philosophie des sciences, pour montrer que pour arriver à une formule, pour arriver à une théorie, on est passé par tout un ensemble, peut-être pas d'aléas, mais d'étapes qui correspondaient à des tentatives, enfin, montrer déjà que la science est sans cesse en questionnement. Et ce n'est pas du tout un dogme. Ou en tout cas, ça ne devrait pas être perçu comme tel. Donc, ça, ce n'est pas évident aujourd'hui à enseigner. Parce que vous savez bien, et surtout en science, on a un peu là, quand même, on a bien dire qu'on a raison. Bon, puis quand vous enseignez, ce n'est pas pour vous mettre en question. Parce que si vous enseignez et qu'en même temps vous donnez aux élèves les moyens de se poser des questions, vous mettez votre propre enseignement en question. Ce qui est loin d'être facile. Or, en science, ça fait quand même partie de la matière même scientifique. Donc, là, il y a un enjeu au niveau de l'enseignement. Donc, jusqu'où aller dans l'introduction des sciences humaines, genre dans l'histoire ou la philosophie, en cours de science, pas évident à trouver le juste milieu, enfin la juste introduction. C'était un sujet de réflexion au niveau du ministère de l'Éducation il y a quelques années, hein, à travers un travail entre autres de Dominique Lecour, auquel avait été demandé un rapport sur ce sujet-là. Mais aussi dans d'autres cours, comment enseigner les idées en philosophie, les religions. On sait qu'aujourd'hui, il y a énormément de réflexions, mais aussi de propositions, et au-delà de... pour que tous les Français puissent être rendus plus sensibles à la religion, vu comme un fait société, non pas comme il ne s'agit pas de mettre les gens dans différentes églises ou confessions, mais dire que ça existe, pour, au fond, nous rendre tous un peu plus intelligents, plus éduqués. Et c'est quand même à travers l'éducation que l'on peut avancer dans ce genre de débat.
Alors, juste pour terminer sur cette actualité du créationnisme dans l'ère du temps, en Pologne, en 2006, c'est le ministre de l'Éducation qui remettait publiquement en cause le darwinisme. Vous parliez également donc de la Hollande, l'Italie.
Oui, de l'Italie. On a régulièrement, dans les hommes politiques ou les femmes politiques, parce que je crois qu'en Hollande, c'était une femme.
C'est plus pour faire un coup d'éclat, pour qu'on parle d'eux, ou c'est un peu
J'en suis pas sûr. Moi, je pense que ça... Vous savez, les hommes... Enfin, vous savez, non, j'en sais rien, mais les hommes et les femmes politiques surfent quand même sur l'air du temps. Évidemment, on attend d'eux qu'ils fassent des propositions, mais en même temps, ils sentent aussi comme ce que les gens attendent. Enfin, moi, je crois que c'est comme dans les médias et dans bien d'autres domaines.
Bien sûr.
C'est un mélange des deux. Donc, si un personnage politique prend le risque de faire ce genre de demande, c'est que c'est pas seulement comme prophète, si je puis dire, c'est aussi parce qu'il sent dans son électorat une certaine demande à l'égard de cela. Et c'est sûr que les thèses, les théories de l'évolution ne sont pas d'un accès facile, ni non plus d'une réception facile. Encore récemment, je recevais la lettre d'un de mes lecteurs ou d'une de mes lectrices qui me disait avoir terminé quelques livres d'un anthropologue français et avoir été très, très gêné en constatant qu'au fond, à lire de manière peut-être un peu stricte, un peu rapide cet anthropologue, il n'y a plus de différence entre l'homme et le singe. Ah oui, mais que devenons-nous? Et c'est vrai qu'on ne peut pas, en écoutant, en suivant un cours de science, en lisant un livre de vulgarisation scientifique, ne pas être un peu bousculé dans ses convictions. Mais comment nous aider à aller au-delà, à ne pas nous arrêter immédiatement face à ces données scientifiques en disant ou alors je les renie complètement, ou alors je les accepte complètement et je renie complètement d'autres convictions religieuses ou philosophiques.
Ça serait une espèce de facilité, en fait, essayer de glisser vers la facilité?
Oui, parce qu'on entend aussi souvent, et c'est vrai historiquement, qu'il y aurait un intérêt à séparer les domaines, en disant, d'un côté, il y a la science qui me dit comment fonctionne le monde, et d'autre part, il y a la philosophie, la religion qui me dit pourquoi, qui me donne le sens de tout cela. Et bon, on sépare les choses.
Le spirituel et l'aspect concret.
Voilà. Alors c'est vrai qu'historiquement, c'est comme ça que les choses se sont calmées. Quand on a dit, écoutez, vous les religieux, restez dans votre domaine, vous les scientifiques, travaillez dans le vôtre, ne soyez pas tout le temps en train de vous chamailler. Bon. Mais il ne faut quand même pas oublier que l'être humain que nous sommes par ailleurs, que ce soit l'homme de la rue ou le plus grand des scientifiques, qui est aussi un homme de la rue, quand même, eh bien, on n'est pas tous schizophrènes. Et que, à la fois, on écoute des scientifiques nous dire comment fonctionne le monde et d'où on vient, et le Big Bang, et Lucie, et l'homme de Toumaï, et tout ce qu'on veut. Et en même temps, eh bien, je m'interroge sur le sens de la vie, pourquoi naître, pourquoi mourir. Et on se rend bien compte que, si on veut avancer, il faut lier tout cela, et non pas les garder indéfiniment séparés. Et c'est là que le rôle de l'éducation.
Alors, nous avons parlé beaucoup du créationnisme dans le christianisme, le créationnisme dans l'islam. Là, effectivement,
donc
ça revient.
On en a parlé à travers l'Atlas de la création. Tout à l'heure, quand je vous disais, penser créationnisme, c'est aussi penser fondamentalisme, penser intégrisme. On sait que dans l'islam, ces courants-là, en tout cas, il y a des courants qui peuvent être également qualifiés d'intégristes ou de fondamentalistes.
Des termes que l'on retrouve souvent dans les médias, qui ne sont pas forcément utilisés à bon escient. Enfin, c'est pas forcément aussi évident.
C'est pour ça que je me permettais, peut-être de manière un peu rapide, mais au moins d'en préciser la définition pour moi tout à l'heure, et pourquoi je qualifiais les mouvements créationnistes de fondamentalistes et parfois même d'intégristes. Donc, dans l'islam, on trouve tout cela. Il y a sans doute des liens, d'ailleurs, des liens, j'entends... organique, structurel, entre les mouvements créationnistes musulmans et les mouvements créationnistes chrétiens, entre autres américains. Plusieurs journalistes m'ont posé la question, et j'aurais dit c'est plutôt votre travail d'investigation, de savoir d'où venaient les fonds qui ont permis, entre autres, l'envoi de cet atlas, qui est d'origine musulmane. Peut-être de mouvements fondamentalistes musulmans, peut-être aussi de mouvements créationnistes américains. Tout ça n'est pas impossible. On sait qu'il y a des liens entre eux, donc au moins deux personnes.
Donc, il n'y a pas forcément à mettre comme ça en dualité islam et
pas du tout. Sur
christianisme.
Sur ce genre de défense d'idées, même de croisade, bon, ce sont quand même des gens qui ont des objectifs assez semblables et ce ne serait pas du tout étonnant qu'ils puissent se retrouver à l'occasion sur certaines opérations. Mais en même temps, il y a au sein de l'islam d'autres courants, d'autres penseurs qui ne défendent pas une lecture littérale du Coran et qui, au contraire, demandent aujourd'hui à ce qu'une approche exégétique et scientifique du Coran soit mise en œuvre, ce qui est très, jusqu'à présent assez difficile au sein de l'islam. Ça, c'est clair. Mais vous avez des scientifiques musulmans et des musulmans scientifiques, il y en a un certain nombre en France, et qui, heureusement, font aussi parler d'eux. Je citais tout à l'heure l'Académie pontificale des sciences. Eh bien, il y a certains académiciens, membres de cette académie, qui sont musulmans, donc avec une ouverture d'esprit et qui n'ont absolument pas créationniste.
Tous les musulmans ne sont pas fondamentalistes
exactement,
ou intégristes,
exactement,
bien sûr, il
exactement.
Faut leur dire
et
quand même assez.
Voilà. Et même chose dans le judaïsme. Même chose dans le judaïsme, qui est moins actif que ne l'est l'islam, peut-être aussi parfois plus discret que ne le sont les églises chrétiennes. Mais dans le judaïsme aussi, on trouve une grande diversité de positions à l'égard des sciences, à l'égard de Darwin en particulier, à la manière de lire la Bible. Et vous trouvez des groupes juifs de type créationniste, en tout cas avec une défense de la lecture littérale et concordiste de la Bible, et d'autres courants ou d'autres auteurs qui, au contraire, invitent à une lecture plus ouverte de la Bible, à introduire l'exégèse, à introduire la dimension symbolique, etc. Donc ça existe aussi.
Eh bien, merci Jacques Arnaud d'être venu nous rendre visite.
Merci à vous.
À Canal Academy pour ce sujet très intéressant. Alors, nous renvoyons nos auditeurs à quelques-uns de vos livres. Alors, je le citais au début de cette émission, Les Créationnistes, Dieu, le singe et le Big Bang, et puis le dernier, hein, Dieu versus Darwin, paru en janvier 2007. Et nous renvoyons également nos auditeurs à une autre émission que vous avez réalisée en compagnie de mon confrère Christophe Dickès sur la vie de Pierre Teilhard de Chardin. Merci encore Jacques Arnoux, et puis je l'espère à bientôt pour une prochaine émission, peut-être sur le CNES. À très vite.